Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Poker Menteur, votre émission mensuelle préférée sur Radio Calade. Alors ce soir, émission un peu spéciale. Nous n'allons pas parler des Gilets jaunes, nous n'allons pas parler de l'attentat de Strasbourg, nous n'allons pas parler de choses qui fâchent, nous allons parler d'un marronnier. Est-ce que, Patrick, tu sais ce que c'est qu'un marronnier ?
Oui, c'est un arbre avec des marrons, enfin des trucs, quoi.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque de Noël, c'est l'idéal.
Je crois. Hein.
Quand ils sont bien chauds, quand il fait moins 2, moins 3 degrés, c'est idéal.
D'accord.
Mais c'est aussi autre chose. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Non, je ne sais pas. Je suis bête.
Eh ben, un marronnier, c'est tout simplement en fait quelque chose qui revient de façon récurrente dans les médias qui fait de l'audience.
D'accord.
Et donc, ce soir, nous allons parler d'un marronnier qui s'appelle la franc-maçonnerie.
Ok, d'accord. La franc-maçonnerie, ça c'est un vrai marronnier, ça fait de l'audience, ça.
Alors, nous avons en invité ce soir Catherine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et nous avons François. Bonsoir François.
Bonsoir.
Alors, je vous laisse vous présenter rapidement.
Bien, ben, je ne pas me présenter, puisque je suis la seule femme autour de cette table. Je suis donc Catherine, je suis entrée en franc-maçonnerie il y a une trentaine d'années, dans une loge d'Auvergne. Et sur le plan professionnel, j'ai dirigé une association dans le milieu social, où j'ai toujours été très engagée, que ce soit du côté de la petite enfance ou des adultes. Et bien, je peux vous expliquer rapidement les raisons qui m'ont amenée à faire ma demande d'entrée en maçonnerie.
Oui, c'est une question qu'effectivement, les auditeurs et les auditrices attendent, oui.
Donc, bien que très engagée dans le milieu associatif depuis toujours, j'ai éprouvé à un moment donné le besoin de m'extraire de mon quotidien de façon à pouvoir me poser, réfléchir un petit peu sur le sens de la vie, de ma vie. Donc me poser dans un lieu où je pourrais aussi évoluer dans ma réflexion personnelle et puis échanger librement, sans jugement, sans préjugés, avec d'autres personnes, des hommes, des femmes, qui soient à l'écoute et qui se reconnaissent comme moi dans les valeurs humanistes de liberté, égalité et fraternité.
Très bien, merci. On va demander à François de se présenter.
Alors moi, je suis plus ancien, puisque j'ai été initié en 1981 à Béthune, dans une loge qui a été créée au début de la Révolution française, 1791-92, qui s'appelle toujours Aurore de la liberté. Et puis bon, j'ai beaucoup voyagé professionnellement, donc je suis allé dans d'autres régions de France. Par ailleurs, j'ai exercé des fonctions de commissaire de police et je suis magistrat à titre temporaire actuellement. Et ma motivation, elle était très différente de celle de Catherine, parce qu'en fait, la franc-maçonnerie, je ne connaissais pas bien. J'avais une vague idée, quelque chose d'un peu archaïque, sympathique, mais archaïque. Et puis, tout simplement, c'est quelqu'un que je connaissais dans le milieu professionnel qui m'a contacté. J'avais beaucoup d'estime sur cette personne et je lui ai fait confiance. Je suis allé sans du tout savoir de quoi il s'agissait. Et je ne l'ai pas regretté, puisque au bout de 37 ou bientôt 38 ans, j'y suis toujours.
D'accord, ok. Très bien, merci pour vos présentations. Écoutez, si vous voulez bien, on va essayer de maintenant d'en savoir un petit peu plus sur cette mystérieuse notion, la franc-maçonnerie, en fait, qui dégage beaucoup de fantasmes, mais bon, pour lesquels les gens ne savent pas trop en quoi ça consiste. Donc, on va commencer par une question simple. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ?
La franc-maçonnerie, c'est une institution qui a maintenant un peu, presque 300 ans. En fait, la franc-maçonnerie, c'est donner une histoire mythique qu'il faut un petit peu remettre un petit peu d'une manière scientifique. En gros, elle date de la fin du XVIIe, début du XVIIIe. C'est les Lumières. C'est la suite de la Renaissance, c'est l'idée qu'il peut y avoir du bonheur sur Terre, que les gens, au-delà de leurs différences religieuses, peuvent se parler. En D'accord. gros, c'est ça. Mmh. Et là-dessus, on s'appuie effectivement sur un rituel, des symboles qui sont quand même courants dans toutes les sociétés humaines.
Alors, on s'appuie sur un rituel des symboles.
Une question, est-ce qu'il y a un élément fondateur ou un personnage fondateur réel de la franc-maçonnerie ?
Il y en a des mythiques. On a parlé d'Égyptiens, de constructeurs de cathédrales, de Templiers, de Rosicruciens, de... C'est beaucoup du mythe, hein, parce que chaque organisation aime bien s'appuyer sur des mythes. Non, en fait, il y a eu, surtout au XVIIIe siècle, effectivement, un certain nombre de pasteurs protestants anglais, puisque ça, c'est quand même l'Angleterre, l'Écosse qui sont les lieux où ont été créée la franc-maçonnerie, qui ont institué cette société initiatique, mais c'est surtout une société fraternelle. C'est-à-dire que l'idée qu'on sortait de guerre de religion en Angleterre, très dure, et qu'il fallait quand même que les gens puissent un petit peu se parler, vivre ensemble et dépassent leurs différences.
Alors ce qu'on va faire, on reviendra peut-être après sur l'aspect historique et on laissera Franck un peu vous interroger. Mais on a compris qu'association de personnes avec un aspect de fraternité et donc vous avez dit, vous avez parlé de rituels et de symboles. Concrètement, c'est quoi cette histoire de symboles et de rituels ?
Je crois que toute société, même aujourd'hui, si ça peut paraître un peu archaïque, on a tous des rituels. Ouais. Hein, je crois que la culture, l'homme s'est construit par une culture, et la culture, il y a des rituels. Le rituel, il est en fait, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il a deux fonctions. La première, c'est de permettre un pas de côté.
D'accord.
On sort d'une. Aujourd'hui, c'est le zapping, c'est
sortir
les
du quotidien.
Sociaux, sortir du quotidien, donc
voilà,
c'est un
se
rituel.
Poser.
Voilà. Et les symboles, c'est des outils pour dépasser, non pas aller à l'encontre, mais compléter, disons, une réflexion classique, intellectuelle, entre guillemets, classique, rationnelle, pour. Bon, il y a une dimension un peu poétique, une dimension analogique, hein, les deux étant
D'accord.
en dialogue.
D'accord, ok, très bien. Donc, se poser, sortir du quotidien et prendre le temps de réfléchir à partir d'autres éléments que des éléments purement rationnels, on va dire. Ok. Vous pouvez nous donner une idée de symbole, un symbole, je sais pas, courant en franc-maçonnerie, incontournable, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Moi, je dirais que des symboles classiques en maçonnerie qu'on retrouve dans toutes les obédiences maçonniques, la lune, le soleil, ce sont des symboles tout à fait courants sur lesquels, effectivement, on est amené à réfléchir.
D'accord.
La lune, le soleil vont nous renvoyer, par exemple, à la notion de lumière.
Mmh. Ouais.
Voilà, deux symboles importants.
Ouais. D'accord.
Oui, puis je dirais masculin, féminin.
Ouais, ok, ouais, tout à fait. Également. La lune, le soleil. Donc on voit que c'est des symboles qu'on peut retrouver dans énormément de cultures, en quelque
Absolument.
Sorte. Donc d'où leur richesse. D'accord, on peut vraiment, de fait, réfléchir sur eux de façon extrêmement vaste. Très bien, ok.
Est-ce qu'il y aurait d'autres symboles, à mon avis, que je connais vaguement ? Ce serait la pyramide ou le genre de
choses ? Il est en
mode
enquêteur, là.
Voilà. Un petit peu, oui.
La pyramide, elle existe dans certains grades rituels, mais c'est plus le compas et l'équerre qui sont un peu
les constructeurs, en fait.
Fait. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, par analogie... aux constructeurs de cathédrales, même s'ils ne sont pas vraiment nos ancêtres, on s'en est inspiré. L'idée, c'est de se construire soi-même pour construire une société un peu harmonieuse et fraternelle.
Donc ça aussi, on pourrait dire que c'est une forme de symbolisme, c'est-à-dire assimiler notre développement humain, personnel, au développement, à la construction d'une cathédrale. Nous sommes notre propre cathédrale nous développons. Ok, d'accord. Donc on commence à voir un petit peu comment on utilise. Et donc, concrètement, c'est quoi ? C'est des réunions ? Vous discutez ? Vous faites quoi ?
Bien, nous avons des
faites
réunions. oui, oui, il nous arrive de faire la fête, plus souvent qu'à notre tour. Nous nous réunissons régulièrement, au moins une fois par mois, voire deux.
D'accord.
Nous avons donc des réunions très structurées, puisque au cours de ces réunions, qui sont, je dirais, organisées autour de rituels, nous avons. Nous travaillons sur des thèmes soit communs, collectifs, soit des thèmes individuels que chaque maçon va choisir de présenter.
D'accord.
Bon, on parlait de la lune et du soleil, l'équerre, le compas, etc. On pourrait donc tout à fait imaginer que voilà, nous avons une réunion là et je vais vous parler pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes de la lune.
Hein. D'accord.
Ce que ça évoque pour moi faire des liens aussi à partir des symboles, faire des liens avec notre vie dans la société.
Ok, mettre en lien ces symboles, leur signification avec notre vie personnelle, notre
Absolument.
Personne, etc. Mais est-ce que ça signifie que dans ces réunions, vous ne parlez que de vos réflexions autour des symboles ?
Alors, nous avons donc dans nos réunions des réflexions tant sur le plan des symboliques que philosophiques, historiques.
D'accord.
Nous abordons aussi des sujets sociaux ou sociétaux.
Mmh. Hein. D'accord. Donc, parler de la société d'aujourd'hui aussi,
absolument,
alors.
Absolument.
D'accord. C'est ça que je voulais savoir.
Oui. Oui. Donc, la société d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de séparation étanche entre la symbolique et le sociétal. En fait, l'un renvoie à l'autre parce que par le symbolique, on peut rentrer au sociétal par analogie et inversement. Mais juste un exemple de ce qu'on a pu traiter il y a quelques années. Au niveau local, au niveau régional et au niveau national, par exemple, de la désobéissance civile. À quelles conditions peut-on ou doit-on désobéir aux lois ?
Intéressant.
C'est une vraie question qui est éthique. Et là, c'est une question qui concerne tout le monde, qui n'est pas une question engagée politiquement, même si c'est un engagement citoyen.
Alors, elle est transversale, on va dire.
Elle est transversale. Voilà, ce type de questions. Et puis actuellement, il y a la révision des lois bioéthiques à l'Assemblée nationale. Et nous sommes sollicités, alors pas nous personnellement, ni Catherine, ni moi personnellement, mais notre obédience est sollicitée pour intervenir devant, dans des commissions parlementaires, sur la fin de vie, sur la GPA, sur la procréation médicalement assistée,
D'accord.
sur l'anonymat des dons de gamètes, etc. Et ça aussi sont des questions sociétales et éthiques.
Très bien. Dites donc, vous avez parlé d'obédience, c'est quoi ça ?
On va dire qu'une obédience, c'est une organisation. Obédience, je crois que ça vient de obéissance. Hein.
C'est un côté.
Ah oui, il y a un côté quand même un peu hiérarchique. Hein. On obéit à des règlements, etc. On peut être un peu rebelle, mais.
Et votre obédience, c'est quoi alors ?
Alors, nous sommes tous les deux. Moi, j'ai commencé au Grand Orient de France, donc à Béthune.
Qui est le plus connu, en fait.
La plus connue, la plus nombreuse. Et puis maintenant, je suis au droit humain, comme Catherine, donc qui est une obédience qui date de 1893.
D'accord.
Qui a été en pleine période républicaine où il y avait une effervescence, notamment de la maçonnerie, en soutien de la Troisième République.
Alors, on avait d'autres questions à vous poser, mais en fait, on va les garder, on va les intégrer dans la partie suivante, parce que je vais laisser la main à mon collègue Franck.
Oui, Patrick.
Pour parler de son dada, l'histoire.
C'est vrai que.
Allez, vas-y, Franck.
Je connais un petit peu, pas grand-chose, c'est tellement vaste, mais justement, je reviens sur ce que disait François. Parlons de la Troisième République, et notamment de l'importance qu'a pu avoir la franc-maçonnerie sur des lois essentielles qui perdurent toujours. Et je pense notamment aux lois sur l'école. Et la loi sur la laïcité, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau relationnel entre la franc-maçonnerie et les acteurs politiques majeurs de l'époque ?
Oui, je crois que ça a été une période un petit peu, j'allais dire, bénie de la franc-maçonnerie, au sens où, à l'époque, il n'y avait pas les partis politiques n'existaient pas vraiment. Il n'y avait pas les associations, il n'y avait pas de cadre juridique pour les associations. Il y avait, un certain Metzland au niveau idéologique, au sens noble du terme, quand je parle idéologique. Et la franc-maçonnerie, ça a été des lieux où on pu, comme il y a eu un recrutement d'hommes, à l'époque il y avait des hommes et des premières femmes aussi, plutôt républicains, même très républicains, ils ont porté la Troisième République. Effectivement, les lois sur les mutuelles, sur le code du travail, alors je ne dis pas que ça a été fait par des francs-maçons exclusivement, mais tout ça a été réfléchi dans les loges et a été relayé par des parlementaires francs-maçons. Et juste une anecdote, puisque vous êtes, Franck, est historien, je ne sais pas s'il connaît cette anecdote, enfin ce fait, c'est que le Parti radical a été formé par des loges maçonniques qui se sont elles-mêmes constituées pour faire
le Parti radical qui est le premier parti de France réel.
Voilà,
absolument.
Absolument. Et alors maintenant, on n'est plus du tout dans les mêmes considérations, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu une période. Alors il y a eu aussi quelques excès, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il y a eu l'affaire des filles. Hein, où pour bien faire, le Grand Orient de France a voulu aider le gouvernement à républicaniser l'armée et à faire des fiches sur l'ensemble des officiers, de façon à ce que savoir si ceux qui étaient monarchistes ou ceux qui étaient républicains. Ça fait un grand scandale.
C'est normal.
Donc c'est les excès. Enfin, il y a toujours le problème des excès qui ont existé. Il faut aussi savoir les reconnaître.
D'accord.
Alors, justement, il y a un mot qui me revenait souvent à l'esprit. Alors, j'ai du mal à le faire comprendre aux élèves. C'est le mot laïcard. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce terme laïcard? Je pense à Émile Combes, par exemple. Ouais. Est-ce que Émile Combes était franc-maçon? C'est une question.
Je crois que oui. Alors, je sais pas, je vais me faire.
À ma connaissance, oui.
Oui, je crois que oui.
Après, c'est un pur laïcard.
Ouais. Alors laïcard, moi, j'aime pas trop le terme laïcard parce que je pense que la laïcité.
C'est ce qu'on disait à l'époque. Hein.
Ouais. Mais qu'on en parle aussi aujourd'hui. La laïcité, c'est quasiment la mise en application du principe républicain et maçonnique, liberté, égalité, fraternité.
Bien sûr.
Liberté de penser, égalité entre les origines et fraternité, c'est-à-dire ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Donc la laïcité peut pas être une idéologie contre. D'ailleurs, la loi de 1905, elle est assez soft. Hein, elle dit simplement chacun est libre de penser ce qu'il veut et l'État n'intervient pas, les religions n'interviennent pas dans l'État, l'État n'intervient pas dans les religions et il y a égalité entre les croyants et les non-croyants. C'est parfait. Mais il peut y avoir effectivement des instrumentalisations un peu anti-religieuses, un peu dogmatiques. Oui. Ça peut arriver.
L'affaire des inventaires, parce que vous pouvez nous rappeler un petit peu.
Ouais, c'était un peu rude. Oh, bon, alors, c'est vous, Franck, qui serait mieux à même d'en parler.
Mais dis-nous, Franck,
les inventaires, c'était effectivement de faire l'inventaire effectivement des biens appartenant à l'Église, qui étaient nationalisés. Okay. Enfin, et donc il y a eu des moments un peu rudes où l'armée est intervenue. Il y a eu de la répression, du maintien de l'ordre. Je sais que ça a été un moment un peu rude. Il faut dire aussi que l'Église catholique, elle ne reconnaissait pas trop la République, détestait la maçonnerie. Donc c'était un climat un peu particulier. Mais la loi de 1905, c'est une loi plutôt d'apaisement et de tolérance.
Alors si on avance dans le temps, si on passe à la fin de la Troisième République, dans les heures sombres pour moi de l'histoire de France, c'est les années 30, que je ne vais pas rappeler comment ça s'est terminé. C'est terminé par un conflit mondial, notamment une seconde guerre mondiale. Le Front populaire, est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une question, est-ce que la franc a pu influencer les lois fondamentales qui ont été mises en avant lors du Front populaire?
Pas directement. Mais il y a eu quand même comme je vous dis, tous les ans, il y avait un travail dans les loges sur des questions, sur le droit du travail, les journées de travail, les congés payés, etc. Et ça a pu influencer, je veux dire, pas directement, mais indirectement. Hein, il y avait une espèce de bain intellectuel, et la franc-maçonnerie y participait d'une manière un peu active.
Elle était dans le sens de l'histoire, on pourrait dire, sur le plan intellectuel.
Ouais, dans le sens de l'histoire. Après, là aussi, il y a eu un abandon un peu des principes maçonniques, et il y a eu notamment sa fameuse affaire Stavisky, pas mal de maçons ont été mis en cause. Bien c'était sûr. Pas la maçonnerie en tant que telle, mais des francs-maçons qui ont été recrutés d'une manière un petit peu légère, et qui on fait beaucoup de mal à la franc-maçonnerie, dont s'est servi l'État français, Vichy, pour attaquer la franc-maçonnerie, avec quelques raisons aussi, hélas.
Alors, si on avance encore un peu dans le temps, parlons de la peine de mort. Et là, je vais peut-être donner plutôt la parole à Catherine. Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de la franc-maçonnerie au début des années 80 par rapport aux femmes, notamment? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bien. Par rapport aux femmes, je pense que la maçonnerie, là encore, a eu une action plus ou moins directe, dans la mesure où on réfléchissait déjà au XVIIIe siècle, XIXe siècle, notamment aussi au moment de la création du droit humain, qui est la première obédience, enfin nous on parle d'ordre au droit humain, hein, mais la première obédience mixte, il y avait des sujets qui étaient sur lesquels on réfléchissait en loge, et à l'époque les femmes étaient très très engagées individuellement, hein. La franc-maçonnerie, par l'intermédiaire de ses membres, a eu forcément une influence.
On pourrait dire, donc, si je comprends bien, que ce n'est pas tellement la franc-maçonnerie en tant que telle, mais à travers les membres, dans leur vie civile, en quelque sorte, que les influences se jouent. Il y a une sorte de bas intellectuel et puis ça se joue dans la vie civile. Ou est-ce que non, il y a quand même aussi une action directe de la franc-maçonnerie
Il peut y avoir des actions directes de la franc-maçonnerie. Ah,
La part des dirigeants des obédiences, vous voulez dire?
Tout à fait, oui. Il y a des prises de position. On voit des communiqués actuellement régulièrement des obédience sur les valeurs, les grands principes de la maçonnerie.
D'accord. Et parlant des obédiences, justement, on va faire peut-être un tout petit point d'information, on va dire. Hein. Les obédiences, c'est les grandes organisations maçonniques. Donc, on a cité le Grand Orient qui était le premier, qui est le premier en taille, hein, je dirais, en nombre de membres. Les auditeurs veulent aller sur Internet se renseigner, eh bien, leur site, c'est godf.org. D'accord, godf.org pour Grand Orient de France. Ensuite, on a la Grande Loge de France. Le site, c'est gldf.org, qui est la deuxième grande obédience en termes de taille, si je ne dis pas de bêtises. gldf.org pour Grande Loge de France. Ensuite, nous avons votre droit humain, je dirais, hein, d'accord, dont le site internet est droit humain en un seul mot, -6-france.org. Et enfin, on a la Grande Loge féminine de France, glff.org. Donc déjà, si on veut se renseigner, on va sur Internet et on se renseigne. Catherine, un dernier petit mot avant une petite pause musicale.
J'ajouterais que concernant le droit humain, il existe aussi un site international qui est droit-du-6-humain.org.
D'accord, donc deux sites, le site français et le site international.
Bien, nous allons écouter Duke Ellington, Take the Air Train.
100.9, Calade. Thank you.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur et aujourd'hui, pour les fêtes de Noël, nous faisons une émission spéciale sur la franc-maçonnerie. Vous venez d'écouter Duke Ellington, Take the A-Train. J'ai un super accent. Allez Franck, c'est à toi. Tu vas nous parler de quoi là?
Le complotisme et la franc-maçonnerie, parce que cette histoire va quand même assez loin, parce qu'on va jusqu'aux persécutions, si on remonte aux sombres heures de la Seconde Guerre mondiale, mais même avant, hein. Alors moi je pense à ce film que j'ai vu un peu par hasard qui s'appelle Forces occultes. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire, François?
Oh ben, la franc-maçonnerie, elle a toujours provoqué des fantasmes, parce que effectivement, il y a une dimension, on y verra peut-être, de secret ou de discrétion sur laquelle on pourra revenir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, moi aussi, j'ai vu ce film Force occulte, qui est pas si mal fait ça, de propagande anti-maçonnique. Quasiment, on a l'impression que les juifs et les francs-maçons dirigent le monde.
C'est ça.
Jusqu'à commettre des assassinats pour diriger ce monde. Bon, bien sûr, c'est complètement... comme beaucoup de... Il peut exister des complots. Hein, le complotisme, quand même, notamment en franc-maçonnerie, j'en ai jamais vu. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que quand Vichy avait beaucoup de choses à faire, en août 40... La première chose qu'il a fait, c'est interdire les loges maçonniques. Il avait à assurer la sécurité des Français, assurer leur ravitaillement, etc. Il y avait une espèce de
ça
haine anti-maçonnique et anti-républicaine. Hein. La franc-maçonnerie étant égale république, donc on veut se débarrasser des deux. Bien sûr que la franc-maçonnerie avait commis des erreurs, on en a parlé tout à l'heure. Enfin là, on est vraiment dans quelque chose de fort. Et il y avait cette... Alors il y a eu, à la fin du 19e siècle, le protocole des sages de Sion, qui est en fait une manipulation de la police tsariste, secrète, indiquant que les francs-maçons étaient là pour, avec les juifs aussi, tu vois, juifs et francs-maçons, c'est un peu...
Beaucoup les juifs qui étaient attaqués.
Les fameux complots judéo-maçonniques.
Voilà, tout à fait. Ils voulaient mettre la main sur le monde. Et ce protocole, on le trouve toujours, hein, dans certains pays.
J'en ai entendu parler, bien sûr.
Mais les gens aiment bien le complot. Hein, c'est bien parce que complot, moi je sais des choses que les autres ne savent pas. Donc ça valorise la personne qui...
J'explique le monde simplement.
Et j'explique le monde simplement. Un monde complexe, on l'explique simplement, c'est quand même... Ça repose, et puis ça place par rapport aux autres. Donc le complotisme, il existe toujours un peu aujourd'hui, hein, puisque j'ai entendu dire
sur les réseaux sociaux, ça foisonne.
Sur les réseaux sociaux, certains mouvements voulaient interdire la franc-maçonnerie, comme en 1940 Pétain, voilà. Donc il faut faire un peu attention quand même, parce que la bête n'est pas totalement tuée, elle peut renaître.
Alors une question toute simple, donc ils ont été déportés, hein, de toute façon on est franc-maçon.
Alors,
certains,
pour que les choses soient claires, les francs-maçons en France ont été... ont eu l'obligation de se déclarer et ont été exclus de toute fonction publique, politique, publique, magistrature, etc. Ouais. Par contre, ils n'ont pas été déportés en tant que maçons, mais beaucoup de maçons soit étaient juifs, soit étaient résistants et ont été déportés à ce titre-là.
D'accord.
En gros, on dit qu'il y a eu à peu près 1000 déportations, 600 morts francs-maçons pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais souvent des résistants ou des juifs, pas uniquement parce que maçons.
D'accord. Alors, maintenant, je laisse la parole à Patrick, qui va nous parler de la franc-maçonnerie, donc, aujourd'hui.
Ah non, moi, je parle de rien, c'est surtout nos invités qui vont en parler. On va leur demander que peut-on dire, quelle est la franc-maçonnerie aujourd'hui. Donc, je dis, quelle est la franc-maçonnerie, c'est quel type de personne, quel type de profil on a en franc-maçonnerie, quelle profession, en général, on trouve de façon dominante, aujourd'hui, puis hier, mais surtout aujourd'hui, quoi.
Oh bah, je ferai aussi le lien avec l'histoire. Quand on a interdit les francs-maçons de pouvoir accéder à la fonction publique, magistrature, etc., à certains postes importants, politiques et tout, enfin ils ont été exclus, à un moment, il y avait un service de société secrète qui a commencé à diffuser les noms des francs-maçons dans toute la France, en disant, voilà, ils vont avoir ces francs-maçons, etc. Ils sont vite arrêtés. Parce que les gens sont aperçus que les francs-maçons, c'était le médecin du coin, l'avocat, le maire, l'instituteur, etc. Des gens, on va dire classe moyenne supérieure.
Ça ne faisait pas rêver en termes de complotisme.
Engagés. Et alors, quand le grand maître du Grand Orient de France, Arthur Groussier, qui a été à l'origine, à la fin du 19e siècle, des lois Code du Travail, les Allemands sont allés chez lui, alors non pas pour l'arrêter, mais enfin pour voir... Ils ont été extrêmement surpris de voir la modestie de sa demeure, en disant, pensant qu'un grand maître du Grand Orient, c'était quelqu'un qui avait X palais, etc. Donc il y a eu ce côté. Alors aujourd'hui, on a des gens... alors la maçonnerie est un peu vieillissante, même si on est 160 000 en France, ce qui est un chiffre qui n'a jamais été atteint. Hein. La famille est un peu vieillissante, comme la société l'est. Oui, et puis maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que s'engager à 20 ans, c'est pas évident. Hein. C'est un peu plus tard, après 40 ans souvent. Oui. Mais c'est des gens, effectivement, qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer. Alors, il y a beaucoup de profs, il y a pas mal de policiers, de médecins, d'avocats,
dans le monde social aussi, on trouve pas mal de personnes, notamment de femmes, maçons.
D'accord.
Ouais. C'est vrai qu'on retrouve un peu le même type de profil que au début du 20e siècle.
Donc ça a été assez stable en termes de profil.
Oui, je pense quand même.
D'accord.
Je pense quand même. On est sur une classe, je dirais, moyenne.
D'accord.
Ce qu'on peut dire, c'est très difficile, il faut être conscient, on n'a pas beaucoup d'ouvriers, d'agriculteurs. Parce
d'accord.
Que c'est pas, voilà, c'est... Et puis, il n'y a pas non plus la super élite, entre guillemets, mondialisée, parce qu'ils ont autre chose à faire, j'imagine.
Ouais, ils ont des lieux plus sympas.
Et donc, sûrement. Et donc, on représente assez bien une classe moyenne française, assez diversifiée horizontalement.
D'accord.
Peut-être suffisamment diversifiée sur un plan, sur un autre plan, sur le plan des niveaux sociaux.
Ok, une petite question éventuellement. On parle beaucoup de secrets autour de la franc-maçonnerie. C'est une société secrète. Est-ce que la notion de secret est importante ou est-ce que c'est un fantasme
Alors bon, moi personnellement, je dirais que spontanément comme ça, pour moi, c'est un fantasme. Mais
ouais.
Non, enfin, le secret il n'existe pas vraiment dans la mesure où, à la fois dans tous les rayons des bonnes librairies, vous trouverez des ouvrages sur la franc-maçonnerie qui vous expliquent en long, en large et en travers ce qu'est la maçonnerie, ce qu'est une initiation, etc. Vous trouvez aussi sur Internet, notamment sur les sites des obédiences maçonniques, des explications qui vous permettent de savoir ce qu'est la franc-maçonnerie et ce qu'elle n'est pas. Donc non, on ne peut pas vraiment parler de secret.
Mais on peut parler de gens discrets éventuellement,
on peut parler de,
autour de leur appartenance.
On parlera plus de discrétion dans la mesure où s'il n'est pas interdit à un individu de dire qu'il est maçon et on, voilà, ça nous appartient. On a, je veux dire, il y a des personnes qui considèrent que c'est leur jardin secret, qu'elles n'ont pas envie de partager ça. Voilà, d'autres comme nous qui disent on a envie de partager, de faire connaître ce qu'on vit, ce qu'on.
Donc chacun décide librement de le dire ou pas le dire.
Par contre, je ne me permettrai pas de dire que mon voisin, mon collègue de bureau, etc., est maçon parce que ça lui appartient, ça ne m'appartient pas à moi. Donc on parle plus de discrétion dans ce sens-là. Je dirais que le secret, lui, est plus lié à ce que l'on peut vivre individuellement, intimement, en maçonnerie. Hein, à notre ressenti par rapport à notre, à notre vécu maçonnique.
Et une question toute simple, est-ce qu'on peut en sortir facilement?
Contrairement
à une secte, d'ailleurs.
Complètement.
C'est ça la grande différence.
De faire une lettre de démission et, on acte la démission le jour où la lettre est présentée au président de la loge à laquelle on appartient. Il est plus difficile d'entrer en maçonnerie. On est quand même exigeant. On a une certaine exigence. Ça demande du temps.
D'accord.
Et donc, je dirais qu'il est...
On en rentre plus facile. On y rentre
très
difficilement qu'on en sort.
Oui.
Alors, on va passer à un autre point parce que qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'à présent. La franc-maçonnerie, dans l'image qu'on en a, quand on se renseigne vaguement, c'est que des mecs, c'est que des hommes. Or, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine Catherine ici, qui est une dame, je vous l'atteste, d'accord, on a vérifié. Et donc, que se passe-t-il? La franc-maçonnerie est devenue mixte, et là, on va peut-être parler de votre obédience, le droit humain. Je vous écoute.
Alors, c'est vrai que la franc-maçonnerie a été longtemps masculine, en tout cas sa création, elle est exclusivement masculine, même si à une époque on parle de loge d'adoption où il y aurait des femmes qui sont un peu quand même sous la coupe de leurs hommes, j'allais dire entre guillemets. Mm-hmm. Donc la maçonnerie devient, enfin les femmes connaissent rentrent en franc-maçonnerie au même titre et connaissent, sont initiées au même titre que les hommes, véritablement, à la création du droit humain.
Hein.
Fin 19e siècle.
D'accord.
Donc là, on aura, les femmes seront initiées exactement comme les hommes. Ce
D'accord.
qui n'était pas le cas
okay.
avant, on ne pouvait pas parler d'initiation féminine.
La première particularité du droit humain, c'est cette mixité.
Alors, je dirais que la mixité du droit humain, elle est dans nos gènes au droit humain.
D'accord.
Nous la vivons depuis la création de notre obédience.
Et la deuxième particularité, c'est quoi alors du droit humain ?
Alors, le droit humain est mixte et international.
D'accord.
C'est-à-dire que nous sommes structurés. Chaque pays a ce qu'on appelle une fédération. Hein. Mm-hmm. Donc nous faisons partie, nous sommes membres de la Fédération française du droit humain, mais le droit humain est structuré au niveau international. Et nous avons donc, c'est une association loi 1901.
Oui, d'accord. Hein.
Et au niveau international, en fait, nous utilisons, les mêmes outils de travail dans tous les pays, ou quasiment.
Okay. Hein.
Et nous avons un règlement, ce qu'on appelle une constitution,
hein,
une constitution internationale qui s'impose à tous les maçons du droit humain.
Ça fait combien de pays à peu près l'international en question ?
Écoutez, nous sommes installés nous avons des loges dans tous les continents.
Hein. Ouais.
Grosso modo, je dirais peut-être autour de 50-60 pays.
Ah oui, quand même.
Hein, puisque au niveau international, nous sommes 28 000 membres au droit humain.
Quand même.
Sachant que
D'accord.
la Fédération française du droit humain est la plus importante puisque nous sommes autour de 17-18 000 membres.
D'accord. Et 10 000 membres à l'étranger.
Et donc, nous avons des loges, pour vous donner quelques pays, je pense au Brésil, au Cameroun, Sénégal, Espagne, Croatie, États-Unis, c'est une fédération très ancienne, hein, qui a été créée quasiment tout de suite après la création du droit humain, ainsi que, la première loge du droit humain a vu le jour en 1893, au passage sur la région Rhône-Alpes en 1895, hein, sur Lyon. Très rapidement, nous avons eu des loges en Angleterre, aux États-Unis, en Inde, même si maintenant ça n'est plus le cas, mais encore qu'il y a des frémissements. Hein, mais donc la maçonnerie du droit humain au niveau international s'est très très vite développée après D'accord. sa création.
Alors, on va laisser la parole à Franck qui va maintenant vous poser quelques questions sur la franc-maçonnerie aujourd'hui en termes d'enjeux. Qu'est-ce que tu en penses, Franck ?
Oui, alors je rappelle, vous écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, une émission spéciale sur la franc-maçonnerie. Vous êtes bien calés sur 100.9.
Poker menteur.
Alors, François, je crois que vous avez dit que le nombre de francs-maçons au niveau national était de 160 000, c'est ça, environ ?
Autour de 160 000, oui.
D'accord. Alors, quels sont les enjeux actuels de la franc-maçonnerie ?
Alors, on va dire, dites-moi. Pourquoi est-ce qu'on rentre ? Alors, on pourrait dire, pourquoi les francs-maçons s'engagent en franc-maçonnerie, enfin les profanes, on appelle les profanes.
Oui.
Profanes, ça veut dire ceux qui ne sont pas francs-maçons. Mais on a une vie profane, on a une vie maçonnique. Je pense que pas mal de... La franc-maçonnerie a eu du mal à se remettre de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au milieu des années 70, ça a un peu, si ce n'est végété, progressé doucement. et elle s'est beaucoup développée au milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle, je pense qu'elle pouvait correspondre à beaucoup de gens qui s'étaient engagés dans des associations, dans des syndicats, dans les partis politiques, qui ont peut-être été un peu déçus, qui ont trouvé un autre lieu. Ça, c'est pas exclusif d'ailleurs, on peut tout à fait être franc-maçon et être engagé, au contraire, on encourage les gens à être citoyens actifs. Mais il y a cette dimension, et aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est pas du tout un lieu de développement personnel, hein, faut faire attention à ça. Mais
c'est pas une thérapie.
C'est pas une thérapie, ça c'est vrai, c'est clair. C'est pas une religion, c'est pas une thérapie, c'est pas un parti, c'est pas une ONG caritative, c'est une société initiatique, voilà. Bon, qui peut prendre un certain nombre de ses caractéristiques, mais aujourd'hui les gens recherchent effectivement peut-être, pas tout le monde, hein, mais des lieux un petit peu où on pose des valises. Encore une fois, j'en prends le, on fait un pas de côté, on réfléchit ensemble. Il y a une dimension, qu'on le veuille ou non, conviviale, fraternelle. Il y a, c'est pas uniquement des purs esprits, hein, on est aussi de l'aide de chair. Donc il y a une réunion maçonnique, il y a une tenue et il y a des agapes. Les agapes sont quasiment obligatoires après la tenue, et ça permet de se détendre, de se connaître.
Donc on mange pendant les agapes,
si je dis pas très convivial. Et on mange. Ah oui, oui, la convivialité, elle est fondamentale. Hein, si on est pendant les aides de chair aussi. Mais, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, la tenue c'était une heure et les agapes c'était trois heures. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, hein, mais on essaie d'équilibrer. Mais ça fait partie vraiment de notre culture, hein, de pouvoir partager, hein, agapé. C'est aussi agapé, ça vient. Je vais pas être cuistre, mais bon, ça vient amour, enfin, etc. Il y a une dimension effectivement fraternelle qui est importante. Bon, on cultive la bienveillance et la fraternité par ce moyen-là. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent pour ça, pour se développer, pour avoir des contacts, sortir un peu de leur vie et qui est un peu minutée, qui est bousculée, etc.
D'accord.
Des lieux. Et puis, la franc-maçonnerie est gardienne un petit peu du temple républicain. Laïcité, égalité hommes femmes, éducation, droit des enfants, valeur de la République.
On revient à cette identification de la franc-maçonnerie à la
République.
Et donc,
bien sûr, son message, il est pas mal noyé, parce qu'il y a tellement de gens qui interviennent aujourd'hui, des think tanks, etc. Mais elle est très investie, et même si elle n'est pas toujours audible, parce que les médias n'entendent pas toujours les micros, c'est vrai qu'on ne se met pas autour des ronds-points en général, donc c'est plus compliqué de se faire entendre. Mais on a des vrais, enjeux autour de l'égalité, de la justice, de la laïcité, de la bioéthique, etc.
Alors rapidement, est-ce qu'un temple maçonnique peut être ouvert à tous ?
Il peut l'être à certaines circonstances, puisque... Alors déjà, pour rentrer franc-maçon, tout le monde est... Oui, à partir du moment où on a 21 ans, je ne sais plus, 18 ans, je ne sais plus là, je crois. On peut rentrer, ouais. On peut rentrer avec un passage un peu compliqué.
Bon, on va en reparler après.
On en reparlera après.
Et après, on ouvre nos temples de temps en temps.
Du patrimoine, voilà. Par exemple.
D'accord.
Vous pouvez visiter un temple maçonnique, et puis il y a des conférences publiques dans les temples.
Alors nous allons lancer Louis Armstrong, un petit morceau de Louis Armstrong.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together, cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Now mama dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. Heart beat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me.
Poker menteur.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker menteur, c'est notre émission de décembre avant les fêtes. Un sujet qui est la franc-maçonnerie. Donc, sujet intéressant où on découvre plein de choses. Et je vais vous présenter rapidement quand même quelque chose qui est important, c'est de dire, bon, la franc-maçonnerie à Villefranche, c'est quoi, d'accord ? Donc, eh bien, la franc-maçonnerie à Villefranche, c'est né il y a très 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 longtemps, puisque si le Grand Orient, la grande obédience, la première grande obédience française est née en 1773, la loge de Villefranche, la première loge de Villefranche naît 11 ans après, en 1784, juste avant la Révolution, où ça va chauffer pour leurs fesses. Donc ils vont vite se mettre en sommeil, ils vont réapparaître, pour finalement disparaître définitivement vers 1812 à peu près. Mais très rapidement, en 1825, une nouvelle loge va apparaître, qui va s'appeler la Parfaite Union, qui va être créée avec l'aide de membres de la franc-maçonnerie de Mâcon, d'une loge de Mâcon. Celle-ci va perdurer jusqu'au Second Empire, où elle sera mise en sommeil durant le Second Empire, parce que le Second Empire, ça rigolait pas trop non plus en termes une démocratie, on pourrait dire. Hein. Et c'est en 1871, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un siècle et des poussières, enfin à l'échelle de notre vie c'est quand même long, que naît la loge qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Fraternité Progressive. Bien sûr, les membres de cette loge sont, donc 1871, massivement des républicains, d'accord. Ils soutiennent Jules Ferry, mais avec quand même pas mal un certain éventail de nuances, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui soutiennent Jules Ferry globalement, mais il y a ceux aussi qui condamnent sa politique coloniale, qui condamnent sa politique sociale. En gros, il y a des nuances qui vont de la gauche au centre-droit, si on utilise des termes d'aujourd'hui pour le contexte politique de l'époque. Quelques petites infos qui sont intéressantes. Début XXe siècle, dans la loge de Villefranche, il y avait 29 viticulteurs, 8 artisans commerçants, 8 membres de l'industrie, patrons ou cadres, 4 professions libérales, 47 fonctionnaires quand même, mais bon, ça fait à peu près un peu plus de 50%. Dans ces 47 fonctionnaires, 29 enseignants. Bon, il y a un ancien maire de Villefranche en 1871 qui a été franc-maçon. Il y a un qui a été sénateur, M. Guyot. On a eu quand même le fameux M. Vermorel. Alors attention, Victor Vermorel, il a été franc-maçon, mais pas dans la loge de Villefranche. Donc un personnage, un Victor Vermorel, un personnage de l'histoire de Villefranche qui a inventé un pulvérisateur en 1884 qui a permis de lutter contre le phylloxéra, c'était cette fameuse maladie qui touchait la vigne, qui a eu un grand succès, qui a pu bâtir une station d'études expérimentales, qui va bâtir un immense bâtiment à Villefranche dans lequel il y aura des laboratoires, des salles de collection, un musée, une bibliothèque, tout ça que vous pourrez retrouver, la bibliothèque en tout cas, à la Maison du patrimoine de Villefranche. C'est au 210 boulevard Victor Vermorel qu'on peut trouver ce bâtiment. Il va faire pas mal de choses, ce monsieur. Il va même faire de la, il va faire de la, de l'automobile, de la construction automobile.
Des avions.
Il aura jusqu'à 1200 ouvriers. Alors ça va s'arrêter au début des années 30. Il va mourir en 1927. Après, malheureusement, sa famille ne va pas tellement reprendre. Pour la franc-maçonnerie, pour revenir à la franc-maçonnerie de Villefranche, bon, évidemment, pendant la guerre, ils doivent arrêter. Ils renaissent de leur cendre en 45, mais il n'y a plus que 26 membres. Mais ils vont se redévelopper progressivement, de façon assez importante, et fêter en 1973 leur 100 ans d'existence. Après, à la loge, la première loge donc créée, vont se rajouter deux autres loges. En 1998, une loge de la Grande Loge Féminine de France, donc la franc-maçonnerie féminine, va être créée. En 2006, c'est une loge du droit humain qui va arriver à Villefranche. Donc aujourd'hui, sur Villefranche, on trouve quand même une franc-maçonnerie assez dynamique. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie à Villefranche. Pour terminer cette émission, Franck, si tu le veux bien, je vais te redonner la parole. On va se poser la question, mais au fait, pourquoi et comment devient-on franc-maçon ?
Alors, je reviens un petit peu à une question que j'aurais dû poser avant la petite pause musicale, qui est importante. C'est, est-ce qu'on peut parler de pouvoir ou de contre-pouvoir concernant la franc-maçonnerie ?
Moi, je dirais qu'il n'y a ni pouvoir ni contre-pouvoir. D'ailleurs, historiquement, la maçonnerie française, en tous les cas, enfin anglaise en tous les cas, elle est complètement dirigeante de la franc-maçonnerie anglaise, c'est un membre de la famille royale. Et sous le Premier Empire, sous le Second Empire, sous la Troisième République, la franc-maçonnerie est très très loyale vis-à-vis des institutions. Hein, donc, rarement un contre-pouvoir, mais en tous les cas, un gardien des valeurs. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, encore une fois, c'est un lieu de vigilance, de vigie. C'est un lieu d'interpellation des gouvernants ou de la société quand on veut pas se mêler, bien évidemment on n'est pas légitime, puis comme l'a dit tout à l'heure Patrick, il y a des gens de sensibilité politique ou philosophique un peu différente, ce qui fait sa richesse. Donc on va pas s'engager dans des débats politiques, par contre on va s'engager sur des valeurs et des principes, notamment républicains. Donc dans quelle mesure, s'il devait y avoir par exemple, par malheur, j'espère que non, une remise en cause de la loi de 1905, c'est sûr que les francs-maçons agiraient par tous les moyens possibles si possible, enfin les moyens légaux bien évidemment, mais donc la franc-maçonnerie n'est pas un contre-pouvoir, c'est un lieu d'influence ou de encore une fois, un gardien du temple. Une gardienne du temple.
D'accord. Alors, je vais terminer un peu là-dessus, justement, comme disait Patrick, comment devient-on franc-maçon ? Quelles sont les cérémonies officielles ? Comment ça se passe ? Voilà, je vais peut-être poser la question à Catherine maintenant.
Oui. Comment devient-on franc-maçon ? Il suffit de... Soit on connaît un franc-maçon et on lui prépare une lettre de demande d'admission, hein, qu'on lui remet et qu'il fait passer au président de la loge la plus proche du domicile de la personne qui souhaite intégrer la franc-maçonnerie. Soit on ne connaît pas de franc-maçon et on écrit à ce moment-là dans l'obédience de son choix, mixte, féminine,
masculine.
Alors les sièges des obédiences effectivement sont sur Paris, mais vous les trouvez sur Internet.
D'accord.
Donc il suffit de faire une lettre de demande d'admission. Ensuite, votre lettre est redirigée vers le président d'une loge qui va être chargé de vous rencontrer pour voir quelles sont vos motivations, pourquoi vous souhaitez rentrer en franc-maçonnerie. Hein. Et puis, vous rencontrerez ensuite trois autres maçons. Hein, qui seront chargés de s'entretenir avec vous pour apprendre à mieux vous connaître et échanger sur des sujets aussi riches que variés, c'est-à-dire votre engagement dans la cité, votre parcours personnel, professionnel, associatif, sur ce que vous pensez, je ne sais pas moi, de l'Europe ou des grands sujets qui peuvent agiter la société.
Et à l'issue de ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vote?
Donc,
quoi
il y a un vote, effectivement. La loge statue.
Et on est accepté ou pas en fonction du vote?
Voilà. Si on est accepté, bien, ça donne lieu à une cérémonie derrière.
D'accord. Très bien. On gardera le mystère sur la cérémonie. Juste en passant, les deux artistes, donc les deux jazzmen qu'on a écoutés, Françoise, toi qui nous as apporté, pour quelle raison?
Tout simplement parce que ce sont des artistes francs-maçons, ce sont des Louis Armstrong et Duke Ellington. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont rentrés en franc-maçonnerie. Alors, dans la musique, on connaît Mozart, Franz Liszt, Sibelius, il y en a bien d'autres, mais il y en a beaucoup de jazzmen aussi américains qui sont devenus francs-maçons. D'accord. Alors il y avait des maçonneries exclusivement noires d'ailleurs aux États-Unis,
c'est un peu particulier.
Voilà, mais
très bien, merci de cette info. Fait le tour déjà, enfin on a déjà dit pas mal de choses, on pourrait en dire beaucoup plus, mais qu'est-ce que tu en penses, Franck?
Ah bah écoute, on va déjà remercier nos invités, merci Catherine, merci François,
on
va leur souhaiter très bonne fête de fin d'année.
Tout à fait.
À toi aussi Patrick, à toi aussi Mathieu, et on se dit à l'année prochaine et bonne fin d'année, merci.
Merci à tous.
Bonne soirée, au revoir.
Merci. Au revoir.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Calade 100.9. Thank you.